Radio Django. Culture.
Le LUF, le Lausanne Underground Film and Music Festival, ouvre ses portes demain, le 19 octobre, et se tiendra jusqu'au 23 octobre.
Oui, et pour son 15e anniversaire, il entre dans l'âge ingrat, semblerait-il, hein, soulignent les organisateurs, avec leur goût habituel de la formule.
Merci Jean-Luc. Amina,
quelques mots sur ce festival. Alors, je peux introduire en disant déjà que le festival propose pour cette édition, mine de rien, plus de 150 films, en tout cas 22 concerts, des workshops, des performances, des conférences, des expositions, et il y a même une rubrique qui s'appelle Projets spéciaux. J'aimerais bien revenir là-dessus un petit peu plus tard.
Puis tout ça, c'est important de relever que c'est de la culture underground.
Absolument, ça vient. Et puis toute cette programmation, elle se nourrit des quatre coins de la Terre.
Ah oui, parce qu'il y a le underground de tous les côtés de la Terre.
Le underground de tous les côtés de la Terre. Et puis justement, le but final, premier, au milieu, et puis en chemin, c'est justement de faire sa fête à l'underground.
Eh bien, c'est parfait. Pour en parler ce soir, nous accueillons Julien Bodivide, bonsoir.
Bonsoir.
Et Thibaut Walter, bonsoir également.
Salut.
Merci de nous rejoindre ce soir sur le plateau de Django. Vous êtes tous deux directeurs artistiques de ce festival. Bon anniversaire.
Joyeux.
Amina.
Oui, alors... Moi, je croche un peu sur la formule, justement, qui a retenu l'attention de Jean-Luc en s'intéressant au sujet, qui est justement l'âge ingrat. Mmh. Alors, justement, je vois Thibaut faire la grimace. Comme ça te va bien. Alors, non, moi, quand on me dit l'âge ingrat, je ne peux pas ne pas penser à l'adolescence.
Voilà.
Évidemment.
J'allais dire les boutons, là.
Alors, c'est vraiment genre la maturité qui montre encore un peu son petit nez, qui montre un peu les prémices, mais ce n'est pas encore tout à fait là. Est-ce qu'en tant qu'ado, on peut déjà faire un petit bilan, regarder en arrière et puis se dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis que je suis arrivée dans ce monde ?» Qu'en est-il alors? C'est quoi l'âge ingrat pour vous à l'intérieur de cette grande manifestation du LUF aujourd'hui?
Alors, je crois que s'il y a un truc ingrat, c'est bien que c'est un festival qui existe depuis 15 ans, comme tu l'as souligné, qui connaît quand même une certaine notoriété, un certain rayonnement maintenant, de plus en plus en dehors même des frontières de la Suisse, et qui, malgré tout, continue, contre vents et marées, à devoir lutter pour pouvoir exister chaque année, et puis qui regroupe majoritairement une grande partie de bénévoles, nous deux y compris. Et puis c'est peut-être ça le truc ingrat en fait dans ce festival, c'est que malgré en fait cette reconnaissance qu'on peut avoir par certaines institutions même, eh ben il faut toujours qu'on se démène comme des dingues à bosser justement pour pas un rond. Et ça quand même au bout d'un moment ça commence à fatiguer.
Ce qui est complètement compréhensible.
Après ingrat c'est les autres hein, qui le disent. Hein.
C'est toi qui es ingrat.
Non.
Il faut vous entendre. En tout cas, vous reprenez la formule. Elle vous a plu.
Ouais, non, c'est lui qui l'a écrit. Non, mais l'adolescence est souvent perçue comme un sale âge. Oui. Et en fait, qui est peut-être le meilleur. C'est là où il y a tout qui pète, pas seulement sur la gueule, mais aussi... souvent en musique, dans ce qui se passe à la salle des fêtes, en fait, on peut aussi dire que ça nous pète tout le temps la gueule. Donc, il y a vraiment cette idée aussi que on est aussi dans un âge aussi autocritique, et puis qu'il y a pas mal de choses qui se passent en termes, on n'est plus sous l'autorité d'eux, mais on l'est. C'est peut-être le statut un petit peu du LUF, c'est-à-dire qu'on n'est pas un festival qui est underground, on propose des choses sur la culture underground, mais c'est vrai que dans le processus de programmation, ben, on se pose des questions, et puis on se dit, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas entré dans un certain nombre de codes? Est-ce que tout d'un coup, on n'est pas en train de répéter des choses et des formules au bout de la 15e? Et puis du coup, ben, on programme des gens qu'on n'aurait jamais osé même inviter dans nos propres codes qui se sont installés. Donc voilà, il y a tout qui chamboule et puis on aime être aussi maso et autocritique.
En effet, oui, c'est très clair.
Mais est-ce que ça signifie quand même des changements un peu notoires par rapport à ces programmations ou...
Oui, bah, du coup, après des trucs gros noise comme on a l'habitude de faire, ben, il peut y avoir des comptines pour enfants. Avec, voilà...
Oui, absolument. Donc on a
des Klim Peray et Madame Patate, hein, je vous invite demain soir. Donc
en ouverture.
Je pense que le public du LUF n'est pas du tout habitué à ça. Donc vraiment, quand je le voilà, c'est sérieux. Quoi. Et puis après, il y a d'autres choses comme mettre de la guitare folk au milieu de trucs gros noise. C'est, on n'a jamais eu une guitare folk au LUF. Bon, bref.
Ça, c'est des grandes premières, alors. Mais à quoi, du coup, ben, j'ai l'impression que vous avez passé largement l'adolescence et que vous êtes dans un âge plutôt un peu... qui commence à traîner un peu les pattes, là. Et les gars, qu'est-ce qui vous prend?
C'est uniquement au niveau de la musique. Hein. Au niveau cinéma, ça cartonne toujours. Ouais, toujours des sales gosses, quoi.
Mais quand on parle de 15 ans, on parle, est-ce qu'il y a un peu une dérive institutionnelle? Parce que tout à l'heure, là, vous parliez du fait quand même que vous étiez soutenu. Des fois pas assez, mais quand même un peu... Est-ce que ça a une influence quand même sur la programmation ou pas du tout? Bien, c'est le public a changé, a évolué, les gens ont vieilli.
Ouais, bah c'est vrai que la police du commerce en fait nous demande un certain nombre de groupes. Donc on a l'agent Clément qui a proposé en fait le LHC.
Hein?
Non, je déconne. Non, c'est notre.
C'est excellent.
C'est notre limite en fait. On cherche de l'argent où c'est possible d'en trouver, le moins sale possible, pour promouvoir en fait des artistes qui sont peu connus.
C'est ça.
Et donc c'est vrai que tant que ça ne touche pas à nos choix de programmation, ben on continue.
Oui, au niveau des choix de programmation, de toute façon la motivation première c'est vraiment de programmer ce qu'on a envie de programmer. Je pense que c'est la manière la plus honnête de faire une programmation. Et puis voilà, c'est vraiment simplement quelque chose qui est complètement naturel. Donc on va jamais faire de compromis par rapport à que ce soit des demandes ou des possibilités de séduction de sponsors potentiels. Pour on va jamais en fait casser cette ligne directrice qui est celle de nous faire plaisir à nous avant tout.
Eh bien, c'est rassurant de l'entendre, en tout cas de mon point de vue. Et du coup, ben moi, je suis un petit peu plus curieuse et j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez eu et que vous n'avez plus.
Donc,
qu'est-ce que vous avez déjà eu en tant que sponsor, en tant que soutien important?
Mais des trucs privés. Il y a beaucoup de choses
que
privées.
Vous n'avez plus peut-être parce que tout à coup on vous a demandé de vous mettre dans une certaine ligne de conduite.
Les clubs,
par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu dis club, Thibault, moi je comprends que c'est peut-être vous qui n'en voulez plus.
Oui, bah ça se fait très. Comment dire, ils nous ont, c'est très clair, ils voulaient, il y a un carré VIP, ils nous ont même proposé une liste de DJ, et puis c'est vrai qu'on était surpris, et puis ils triplaient la subvention si on acceptait ce genre de choses. Alors nous, ben, c'est clair qu'on a envie de faire venir des gens incroyables qui ne sont jamais sortis du Japon, etc. C'est vrai que tout d'un coup, quand on nous offre ça, on est tenté, mais c'est inconcevable de franchir cette limite. Ouais. Et puis du coup, quand ils viennent avec des agentes en plus pour vendre des clopes le soir, et puis il y a toute une politique en fait du stand clope qui va avec, hyper sexiste et et qui tout d'un coup là au milieu du festival en font tellement tâche qu'ils arrêtent pas de se faire insulter. Donc c'est même pas nous, mais au débriefing ils disent bon, on n'arrête pas arrêté de se faire insulter. Et donc du coup on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente et puis du coup ils disparaissent assez vite. Mm-hmm. Et donc au fil du temps en fait on s'est rendu compte que c'est beaucoup les sponsors privés qui financent une bonne partie des grosses manifestations qui disparaissent et on n'a plus accès, et c'est pour ça que par exemple la loterie romande ou la ville de Lausanne et le canton sont très attentifs à ça parce qu'ils savent en fait, que les privés, les banques et autres ne seront jamais intéressés par ce qu'on propose. Et donc voilà, la situation est en fait inversée par rapport à celle de Jonas Mekas dans le New York Underground des années 60. C'est-à-dire que l'Underground était fait contre le gouvernement dans les années 60 de Mekas. Mm-hmm. Et puis là, on se retrouve avec des choses étatiques qui sont en fait de la protection de choses qui sont non standardisées, non conformes. Et qu'on peut vivre grâce à eux.
Absolument.
Et puis alors, pour illustrer un petit peu ce propos et ce qui va venir tout bientôt, puisqu'on va parler du programme, Amina, tu nous as prévu un petit extrait sonore.
Oui, c'est plutôt Jean-Luc qui l'a.
Oui, alors, c'est une musique très brutiste que j'aime beaucoup, là, c'est Joachim Rudelius, hein, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce.
Alors ça, c'était aussi à pied de nez, à notre programmation, à nos habitudes. Rudelius,
oui.
Alors on écoute un petit peu, puis après on en parle un peu plus du programme.
Alors, c'est toi qui t'occupes essentiellement en fait, de la programmation musicale, des pièces musicales, je pense, toi et d'autres.
Oui, avec moi, mon équipe de programmateurs.
Je pense avec l'équipe, une équipe qui t'entoure et en collaboration. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce que nous, allons, enfin, nous sommes en train d'écouter là en arrière-fond?
Voilà, hors micro, j'entendais qu'on pouvait mettre cette musique comme fond. C'est exactement ça. C'est une musique de fond. Hein, c'est parfait non, vraiment, en musique de fond.
Ah ouais. Fabien, il a tout compris.
J'ai
Fabien.
Tout compris. Non, mais je le sentais au début.
Oui, c'est ça. Avec l'extrait, voilà. Tu t'es dit, là, il y a quelque chose.
Parce qu'en fait, on n'a pas diffusé le tout début, mais il y a des bruits de pas au début. Hein.
Voilà, ça peut être des enregistrements field recording, s'il y a même des vaches, non?
Oui.
Hein, c'est des vaches.
Absolument.
Donc, Rodelius, c'est un type qui en fait, a parcouru en fait, l'ensemble de l'histoire de la musique électronique du XXe siècle. C'est un type qui, dans les années 60, commençait à faire des soirées underground, c'est-à-dire vraiment à l'insu de la Stasi dans l'ex-RDA, et qui ensuite a popularisé en fait, la musique électronique avec Cluster, dans les potes à Kraftwerk et autres en Allemagne, pour ensuite faire des collaborations avec Brian Eno, avec toute cette idée de l'ambiance. Où en fait c'est les choses les plus douces en fait qui peuvent parfois les sons qu'on n'entend presque pas, les bruits de fond, mm-hmm. et quand on se plonge dedans en fait peuvent quasiment changer nos perceptions du temps et autres. Mais disons personnellement c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie.
Bravo.
Donc, au moins c'est clair. Joachim Rodelius hein, qui va se produire vendredi 21 octobre, c'est ce vendredi à 22h30 à la salle des fêtes du Casino de Montbenon. Et pour la petite histoire, ce sera quelques jours avant, c'est son 82e anniversaire quand même. Hein.
C'est ça.
Voilà, voilà. Qu'en est-il du programme dans les grandes lignes? Toujours autant d'invités, des ateliers, des conférences, les installations, les perfos, etc. cette année?
Ah, y a beaucoup de choses.
Mais oui, justement. Non, mais on pourrait peut-être, si vous voulez bien, donner la parole à Julien pour qu'il nous parle un petit peu. Par exemple, moi, ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est la carte blanche, en fait, que vous avez donnée à Marc Caro.
Oui.
Nous connaissons quelques-unes de ses œuvres. Et puis, c'est comment elle se présente, cette carte blanche? Ça veut dire qu'il vient avec une série de films? Il est présent déjà?
Marc Caro sera présent.
Sera
donc,
là,
c'est intéressant. Il est venu en fait par le biais d'un projet musical en fait, qui mélange musique expérimentale, drone noise, et avec des projections de films expérimentaux, plutôt du genre Flicker, donc quelque chose de très stroboscopique. Son projet en solo à lui s'appelle Hip Noise, qui aura lieu demain, donc à la salle Paderewski de la Cinémathèque Suisse, à 20h30.
Ouais,
et puis, comme Caro venait avec
jeudi,
son projet, comment?
C'est pas jeudi?
C'est jeudi, oui.
Dans deux jours, alors.
Ah oui, nous sommes mardi. Donc, comme Caro venait avec ce projet musical, on s'est dit quand même ce serait dommage de passer à côté de l'occasion de lui proposer une carte blanche cinéma, parce que le monsieur a des goûts quand même assez particuliers en matière de films. Ouais. Et puis surtout, il a un parcours que les gens ne connaissent pas forcément, qui est quand même très ancré dans la culture underground, que ce soit au niveau de la bande dessinée, quand il dessinait pour Metal Hurlant, quand il faisait de la musique indus dans les années 80, et puis cinéma expérimental par la suite. Et puis du coup, là, il nous a proposé deux titres, pas plus malheureusement, parce que justement, on a su qu'il venait un petit peu tard, donc on a pu caser que deux films. Ces deux films sont Mr. Freedom de William Klein, qui est un film français réalisé par un ancien GI. C'est réalisé en 1969 et c'est une charge assez caustique contre la société capitaliste. Et ça donne lieu à une comédie assez absurde avec une espèce de super-héros américain qui vient sauver la France pour sauver le capitaine formidable qui a été capturé par les méchants communistes dirigés par l'affreux Moujik Man, incarné par Philippe Noiret. Et c'est un truc assez fou, c'est très pop, c'est assez cinglant. Ouais. Et du coup, de voir ça sur grand écran en 35 mm, s'il vous plaît.
Ah, yes!
Donc ça mérite vraiment le coup d'œil.
L'autre
film choisi par Marc Caro, c'est Les nains aussi ont commencé petits.
Ah! Celui-là, on le connaît.
Voilà, donc oui. Werner Herzog.
Absolument le fameux.
Voilà, qui fait une critique de notre monde occidental.
Carcéral, dit Thibault, au cas où.
Voilà, à travers une communauté de nains qui passent leur temps, en fait, à taper sur la tronche dans la cour d'un asile d'aliénés ou quelque chose.
Ça promet.
Et c'est un film absolument réjouissant. Donc, c'est super d'avoir Marc Caro qui va venir donc présenter les films et puis expliquer pourquoi il les a choisis, pourquoi ce sont des titres qui lui tiennent à cœur.
Ok, bah super. Bon, en tout cas, on se réjouit d'aller voir tout ça. Et puis, Thibault, est-ce que je peux te poser encore une des dernières questions, car nous sommes un petit peu serrés avec le temps ? Je profite, je fais vite. Donc, tu dis que c'est pas forcément ce que tu as apprécié le mieux, là, le petit extrait. C'est quoi ton coup de cœur, alors, du coup ? Qu'est-ce que tu nous proposes ? Le truc qui t'a vraiment fait pousser des ailes, que tu défends à fond, et puis que tu adores, et puis que tu te réjouis de partager ?
Bah, Yasuna Otone, qui est une figure très importante de la musique expérimentale, qui est le fondateur de la branche Fluxus au Japon, qui joue depuis les années 50, et lui aussi à 81 ans. Donc c'est le travail de 3 ans pour le faire venir, mais j'aimerais insister sur Gregory Whitehead. En fait, c'est vraiment lui, je crois, parce qu'on est à la radio aussi. On a traduit avec une équipe lausannoise ses textes, mais c'est un artiste radio, c'est un artiste radiophonique qui s'est posé la question, mais en fait, dans les années 80, en fait, quand je suis dans un studio et que je parle dans un micro, et puis qu'il y a un auditeur éventuel de l'autre côté, et que cet auditeur, pourquoi est-ce qu'il allume son transistor ou pas, ou qu'il le laisse allumer et qu'il pense à autre chose, il y a une relation entre les deux qui est un espace qu'il a ouvert, et puis il s'est dit, mais c'est un espace qui est spécifique au médium radiophonique, qui n'est pas celui du théâtre, qui n'est pas celui du cinéma ou de la performance, et puis du coup, il en fait des choses incroyables cette relation.
Et puis, ça veut dire que son espace de création, si on peut dire ça, il est vraiment à l'intérieur de ce que...
Voilà, espace de relation.
C'est cet espace.
Et quand je dis qu'en fait, au final, j'en ai rien à foutre du son et de la musique, c'est l'espace de relation qui m'intéresse.
Qui t'intéresse.
Domine un petit peu la programmation cette année.
C'est pas plus mal, ça nous plaît. Moi, ça me plaît, ce que j'entends. J'aime beaucoup.
Vernissage jeudi au Cinématographe à 18h.
Voilà, une programmation très riche et vachement grande en fait. On n'aura malheureusement pas le temps de faire le tour de tout. On vous renvoie au site internet du LUF, www.luf.ch, où on peut retrouver toutes les programmations de ces 4 jours de festival qui commencent donc demain. Non, ça fait 5 jours. Puisque ça commence demain dans les plus grandes salles de Lausanne, soit le Casino de Montbenon, le Romandie, l'EJMA, le Cinéma Bellevaux, l'Espace Saint-Martin et le Standard de Luxe. Voilà, je crois que j'ai tout dit à peu près sur où vous trouvez. Merci beaucoup Julien Bodivit.
Merci à vous.
Et puis merci également à Thibault Walter, tous deux directeurs artistiques. Merci beaucoup de venir nous parler du festival cette année. Et on se quitte avec ces quelques notes de Guitar Wolf. We'll be right back. de Guitar Wolf, un groupe japonais, un trio qu'on va retrouver samedi le 22 octobre au Casino de Montbenon. Ce sera à 23h15 dans le cadre du LUF. Merci beaucoup Amina et merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet.